médias commencent à parler de nouveaux services militaires volontaires. En fait, ce site dont vous parlez, ça a été créé en 2015, lancé sous François Hollande. C'est quelque chose qui a une vocation plus d'insertion sociale. C'est les militaires qui encadrent, qui aident des jeunes à s'insérer et à avoir ensuite une vocation professionnalisante. Et ça existe aussi sous une autre forme depuis 1961, donc bien plus longtemps, en Outre-mer, avec là aussi la vocation sociale et les armées qui accompagnent la jeunesse.
Alors, Jeannette Trinquant, sur les effectifs, on n'a vraiment pas assez de militaires aujourd'hui actifs, de réservistes.
Aujourd'hui, les armées françaises arrivent à recruter le nombre de soldats dont ils ont besoin.
200 000 militaires aujourd'hui.
Demain, après-demain, si je prends 2035, la démographie française fait qu'on n'a plus le socle sur lequel recruter. Donc on doit préempter, préparer cette baisse des effectifs prévisible pour arriver à avoir un meilleur recrutement, beaucoup plus fluide. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est qu'on avait un essai qui était le SNU depuis 10 ans à peu près.
Service national universel.
Un service national universel dont l'objet n'était pas de faire des soldats, mais plus des citoyens, que ça a été donné à cheval entre l'éducation nationale et la défense. L'interministériel, ça marche pas. Et donc, quand on ne sait pas comment faire, on le donne à l'armée et ça marche. Et donc, ça va être un projet qui a été travaillé avec les militaires, avec l'état-major des armées, et donc qui va prendre ça en main et faire en sorte que ça fonctionne.
L'histoire n'est jamais donnée d'avance, donc tous les acteurs politiques agissent et décident en fonction des données du moment. Comment imaginer la configuration qu'on a aujourd'hui il y a 20 ou 30 ans. Donc il n'y a pas de raison de projeter aujourd'hui sur hier. Vous savez, l'histoire, on le sait toujours, elle n'est jamais donnée d'avance. Il faut toujours voir ce qu'on appelle l'appel des possibles. Ce qui est possible à un moment donné ne sera pas forcément ce qui arrive. Donc il n'y a pas de raison de juger ça rétrospectivement comme ça. Mais c'est vrai que c'est fascinant comme la conjoncture a changé. Elle avait déjà changé un petit peu avec le retour de la guerre dans l'ex-Yougoslavie.
Oui.
On avait déjà à ce moment-là l'idée de se demander, dans le fond, la guerre était aux portes de l'Europe occidentale, c'était des pays évidemment avec lesquels il y avait beaucoup de liens, donc cette idée du retour de la guerre, elle n'est pas neuve. Ceci dit, je ferai juste une courte remarque sur cette question, c'est qu'il y a quand même un élément qui a encore plus changé qu'à l'époque de Jacques Chirac, c'est quand même la dimension européenne. Donc il ne faudrait pas faire attention à faire démarrer le débat uniquement dans une arène française, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui de penser uniquement l'armée, la mobilisation en dehors de l'Europe.
Ce service-là, en France, l'Allemagne, elle n'arrive pas à recruter ses soldats. Et comme elle n'arrive pas à recruter ses soldats, elle voulait mettre en œuvre, le chancelier Merz voulait mettre en œuvre, un service militaire obligatoire. Et la coalition ne l'accepte pas. Et donc, ils sont obligés de recruter très très cher, 2600 euros par mois, pour inciter les gens à rejoindre.
C'est la coalition politique, celle de Merz n'en veut pas.
Oui, bien sûr, la coalition politique n'en veut pas. Donc, si vous voulez, chaque pays réagit différemment. Vous avez les pays scandinaves, eux, il y en a qui ont carrément remis le service militaire sur la table. Donc chaque pays a des fils historiques qui ne sont pas similaires.
Spécifique. Oui, mais il faut faire attention, les militaires dans les démocraties sont soumis à la décision politique. Oui. Or, la question de la guerre ou de la violence, elle sera politique par rapport... On voit bien que c'est un enjeu politique. Donc en ce sens, on est bien obligé de penser Europe si on pense défense par rapport aux menaces.
Alors, vous évoquez
une acculturation de la société. Que des chiffres, j'ai quand même cité le dernier sondage qui est sorti qui disait que plus de 80%, 86% des Français étaient pour un service militaire et chez les jeunes, le chiffre était à plus de 70% aussi. Donc il y a un vrai appétit manifestement pour ça, d'après ce sondage en tout cas. Pour ce qui est de l'évolution justement des jeunes, je pense que ça c'est le fruit d'une acculturation tout simplement de la société aux faits militaires, au risque de la guerre. On voit que l'exécutif, notamment les médias, mais surtout l'exécutif fait un effort assez conséquent depuis ces dernières années pour communiquer sur le risque qui est à nos portes. On pense notamment à la conférence de presse du général Burkhardt cet été qui désignait la France comme l'une des principales cibles de la Russie, si ce n'est la principale cible en Europe. Et on pense encore à la dernière sortie que vous avez évoquée, polémique donc du général Mandon devant le Congrès des maires la semaine dernière.
De songeage, parce que qu'est-ce qu'on se représente quand on dit qu'on veut bien faire la guerre, qu'on accepte la guerre, quelle image on a derrière? Vous savez, en 1914, il y a beaucoup de soldats qui disaient on va y aller, on sera à Berlin très rapidement. Et il y en a un qui a un soldat dans les tranchées qui a dit « L'Alsace-Lorraine, au début, ça me motivait beaucoup, mais après quelques mois dans les tranchées, j'avoue que c'est un but qui est devenu très lointain. Mmh. » Donc, entre la guerre réelle, ce à quoi peuvent être confrontés les jeunes et ce qui se représente, il y a quand même une marge. Les sondages,
pourtant, ils voient ce qui se passe en Ukraine. J'allais vous dire, ils voient que cette guerre sur le terrain, c'est une
c'est
guerre.
C'est exact, mais ils peuvent aussi se représenter. D'ailleurs, il faudrait se demander ce que serait une guerre aujourd'hui, parce que d'abord, est-ce qu'elle n'est pas déjà sous une forme ou sous une autre engagée, cette guerre, avec tout un ensemble de technologies, d'invasions différentes, sous différentes formes.
Guerre hybride.
Une guerre hybride, on y reviendra.
Donc,
la question, c'est à quoi on répond quand on s'imagine la guerre. Je crois qu'il faut faire attention.
Au corps à corps, peut-être, quand même, non?
Oui, ou peut-être une guerre technologique. Et je pense que ce qui est important aussi, il ne faut pas prendre les sondages au pied de la lettre, surtout quand ils sont aussi simples. Parce que dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est discuter qu'est-ce que ces jeunes se représentent de la guerre, quelle guerre ils auraient envie de mener. Ce n'est pas si simple que ça.
Les médias ont permis de parler de la guerre, de parler de la menace et ont sensibilisé au même titre que le pouvoir sur le danger qui est proche et qui est tangible. Et il y a aussi la question de l'imaginaire, effectivement. Là où je vous rejoins, c'est que l'armée n'a jamais... n'a jamais autant eu la cote que depuis que la conscription a été supprimée. C'est vrai, je le reconnais. Et on voit effectivement que l'armée a retrouvé de sa superbe depuis la fin de l'antimilitarisme et depuis les désastres de la guerre d'Algérie, notamment, qui avait vraiment écorné son image. Donc on peut penser aussi que ce retour en grâce du militaire, c'est lié à une amélioration de la communication, l'image des armées et des armées qui ont évolué, tout simplement.
J'aime la guerre.
Les hommes, les abus, ça veut dire.
Bah, écoutez, croyez qu'est-ce pas que c'est la guerre. Parce que vous voyez la guerre comme au Technicolor, au cinéma américain, mais la guerre, c'est vraiment la boue, les tripes à l'air et tout ça.
Ouais,
on peut pas aimer. On peut pas. Même quand on est punk,
non,
mais on n'est pas.
Simplement ça, vous croyez pas que les hommes aiment la guerre?
Non.
Vous croyez pas.
Non, parce que vous pensez qu'ils sont assez bêtes. Parce qu'ils s'emmerdent dans leur vie quotidienne pour aimer la guerre.
La guerre,
c'est la fuite des grandes vacances. Mais je crois pas, il y a quelque chose de mieux à faire.
Algérie, je suis pupille de la nation. Vous croyez que j'aime la guerre? Non, la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on doit s'engager pour défendre son pays? Et moi, quand je vois ces sondages, pardonnez-moi, on peut dire, pas bien, etc., etc. Ben, ils sont là. Et moi, les jeunes que je rencontre, je les sens engagés.
Alors, c'est beaucoup évolué. Je pense que vous avez raison de dire que l'image et la fonction de l'armée ont changé. Il y a plusieurs éléments. La fin de la conscription, parce que l'armée, quand il y avait une armée de conscription, c'était aussi des choses qui gênaient le parcours de jeunes hommes. C'était des officiers qu'on jugeait parfois régressifs. Il y avait donc tout un rapport très différent. Donc, effectivement, la fin de la conscription, c'est un élément important. Il y a, je crois, un autre élément aussi important, c'est évidemment la lutte contre le terrorisme. Mmh. Parce que, évidemment, l'armée a là une fonction, on pourrait dire, civique, sociale, qui est beaucoup plus... qui paraît manifeste à tous. Et donc, évidemment, il y a un changement aussi dans ce qu'elle est. Elle ne représente plus, une armée répressive, une armée défendue.
Elle est dans les rues, elle est dans les rues de Paris.
Elle est dans les rues, elle est beaucoup plus protectrice. Donc, c'est vrai que le sens de l'engagement est très différent de ce que ça pouvait être à l'époque de l'antimilitarisme le plus actif, on pourrait dire, effectivement, dans les années 70 ou encore 80.
Le plus visible. Mais en même temps.
Les conditions ont changé, tout simplement. Quand Jacques Chirac met fin à la conscription en 1996, il a deux idées en tête. Il y en a une qui est interne, qui est que la conscription n'est plus le creuset républicain qu'on avait jusque-là, dans la mesure où elle est assez inégalitaire. Il y a beaucoup, une partie de l'élite qui échappe en allant... non pas faire son service militaire dans la boue, mais plutôt à l'arrière, côté civil. Et ensuite, il y a la vision de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe. Jacques Chirac voit l'armée comme une armée projetée, une armée qui va faire des opérations sur des théâtres lointains et qui donc, du coup, ne nécessite pas d'avoir une masse aussi importante que celle qu'elle avait jusqu'à présent. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, le théâtre a changé, l'adversaire aussi a changé, et si jamais on se retrouve dans une confrontation possible, éventuelle, avec la Russie, ce qui comptera, c'est la masse.
L'effet masse. Pour que cet engagement, c'est pour quoi faire? C'est-à-dire que si c'est juste de la mobilisation patriotique pour faire quelques entraînements de gymnastique, c'est très bien, mais ça mène pas très loin. La question, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une très grande technicité, vous en parleriez mieux que moi, des armées, on le voit bien, y compris en Ukraine, ça se joue aussi beaucoup sur des questions technologiques, on le voit, le drone, l'informatique, l'Internet, donc toutes ces questions-là sont très différentes d'une mobilisation de masse patriotique. Donc il faut faire attention, est-ce que c'est véritablement un discours politique ou est-ce que ça aura une fonctionnalité militaire? Et par ailleurs, pour ce qui est de l'affrontement avec la Russie, d'une certaine manière, il est déjà là. Donc en ce sens, on n'est pas en train de se projeter. Un collègue allemand, un collègue historien allemand disait la guerre, elle est déjà, on est déjà en guerre. Donc du coup, ça se pose quand même, ça pose donc doublement différemment. D'une part, comment ça se joue, je me répète, mais c'est important au niveau européen, c'est-à-dire faire des mobilisations citoyennes à l'échelle nationale, c'est quand même, à mon avis, relativement dérisoire tant qu'il n'y a pas une politique commune forte en Europe, et d'autre part, pour faire quel type d'affrontement ?
Alors,
grands affrontements, évidemment, l'appel à l'épargne des citoyens était très important. On a tous en tête ces affiches de la mobilisation en 14-18, pour faire ramener des fonds. Il y avait des collectes, il y avait des journées qui étaient faites, soit qui avaient pour but de soit pour aider les combattants qui avaient été blessés, soit pour soutenir la défense nationale. Donc c'est, je dirais, une action classique de la mobilisation, qui d'ailleurs rappelle effectivement qu'on est déjà dans une forme d'affrontement, puisque c'est au moment où, évidemment, où les guerres étaient les plus coûteuses financièrement, où l'économie était les plus sollicitées, qu'on lançait ces fameux bons de la défense nationale ou ces formes de financement. Mais il y avait sans cesse des appels à la citoyenneté pour justement que l'épargne des citoyens en France, en Allemagne, aux États-Unis, bien sûr, pendant les deux guerres mondiales, soutiennent la défense nationale. Donc c'est finalement très classique. Aujourd'hui, ça prend évidemment des formes contemporaines.
Alexandre Savignal.
Pour vous parler du service militaire obligatoire, il y avait eu une note en mars du Haut Commissariat au Plan qui essayait un peu de chiffrer justement cette demande. Pour un service militaire obligatoire, on serait sur 15 milliards.
15 milliards.
L'investissement paraît assez conséquent. On comprend pourquoi l'exécutif veut démarrer petit avec le service militaire volontaire. On est dans une trajectoire où, effectivement, le budget des armées est en hausse. Elle l'est depuis 2017. On commence peu à peu à rattraper un retard qu'on a atteint depuis 1990 et les dividendes de la paix. Mais manifestement, il faut toujours continuer, d'autant plus qu'il y a toute une industrie de défense derrière, des commandes qui attendent, un écosystème qui doit être nourri et monté en puissance si jamais, là encore, l'armée veut avoir de la masse, pas seulement en termes d'effectifs, mais aussi d'équipement.
Ouais.
Mais généralement, on ne s'intéresse pas aux gens qui seraient attaqués en Europe. Non, l'armée française, elle est présente en Roumanie, elle est présente en Estonie. On défend l'Europe aussi, et on la défend en étant présent. Pour suivre simplement, la France a commencé plus tôt à augmenter ses budgets, en 2017, mais moins fort.
Un autre point, je pense que le modèle social, au contraire, c'est une des forces du pays qu'il faut défendre, mais ça c'est un débat politique. Par contre, là où je pense que vous parliez tout à l'heure du lien éducation nationale-armée, qui est un débat classique, de savoir où doit être formé les citoyens, il y a quand même un élément, moi, qui me frappe dans cette question. On parle de l'armée et de la défense, mais on voit bien que la Russie a des sympathisants en France, que Poutine a des gens qui trouvent finalement pas si désagréable que ça. Donc je pense qu'un des éléments importants, c'est aussi une formation critique. C'est-à-dire que les grands discours sur la mobilisation militaire, s'ils sont pas accompagnés d'une éducation nationale qui a les moyens de former des citoyens critiques qui sont capables de se faire un avis sur la situation, qui sont pas soumis aux fake news, qui ont le temps avec leurs professeurs d'histoire-géographie, d'éducation civique, d'être bien formés, ça me paraît un enjeu fondamental. On voit bien le trouble qu'il peut y avoir chez certains Français autour de la Russie, de Poutine.
L'éducation à la diplôme.
Vous souscrivez à cette information, des fake news, vous l'avez dit. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des organismes comme Viginum, encore une fois. J'en parle souvent quand on évoque ces sujets-là, parce que je trouve que c'est quand même une agence assez remarquable qui, de l'État, qui cible toutes les campagnes de désinformation étrangères, qui essaie de comprendre d'où ça vient. Et le but, c'est un peu sur le modèle finlandais, parce que nos voisins finlandais sont très avancés là-dessus, fournir l'antidote à la désinformation. Donc, non pas dire la vérité aux Français,
mais lutter contre la guerre désinformationnelle. Quoi.
C'est très important, mais excusez-moi, ça peut être vu que si vous formez des citoyens critiques, ils sont capables de même
Merci.
De
commencer à l'éducation.
Voilà, c'est à l'école.
Merci.